OK, on va continuer notre série de leçons qu'on fait sur glorifier Dieu dans votre corps. On est dans la partie, les huit séries de versets de la Bible qui concernent nos devoirs envers nos corps. Alors, on sait que l'auteur utilise l'image de la corde à sept brins qui sont les principes sur lesquels on se doit de s'appuyer pour bâtir notre obéissance à ce que Dieu nous commande dans différents versets. Et les perles, c'est les huit groupes de versets qui nous donnent ce que Dieu veut concernant la manière dont on doit traiter nos corps. Alors, on avait vu jusqu'ici, on était rendu au point 5. On était rendu à la cinquième perle. Donc, on va regarder dans cette cinquième perle-là, c'est que une observation et un exemple apostolique. Par exemple, Paul, dans 1 Corinthiens, au chapitre 9, c'est-à-dire versets 24 à 27, il prend l'exemple, l'illustration de la course à pied et l'illustration du combat olympique dans le stade pour parler de notre marche chrétienne. Alors, il nous dit dans le verset 24, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans la lice courent tous, mais un seul remporte le prix? Courez de telle sorte que vous le remportiez. Tout homme qui combat s'abstient de tout, et ces gens-là le font pour avoir une couronne corruptible, mais nous, pour une couronne incorruptible. Je cours donc, non à l'aventure, je frappe, mais non en l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même réprouvé. Alors, il parle de notre course, de notre marche chrétienne, puis compare ça à une course puis un combat. Une course, il dit, courez de façon à ce que vous soyez gagnant. Puis dans le combat, il dit, battez-vous de manière que vous soyez aussi gagnant. Alors, et pour le faire, il dit qu'il traite durement son corps et qu'il le tient assujetti. Ça veut dire que c'est son esprit qui contrôle le corps et non pas l'inverse. Alors, Paul nous rappelle ici une vérité très importante. Lorsque nous servons le Seigneur à répandre son évangile, nous devons apporter le même soin que l'athlète olympique prend pour gagner la course ou le combat. Il s'impose une multitude de restrictions sur son corps. Vous avez déjà écouté des émissions sur les athlètes pour gagner, qu'est-ce qu'ils s'imposent sur eux-mêmes, c'est presque incroyable. Et la Bible nous dit qu'on se devrait d'agir sur notre propre corps de cette façon-là. Alors, il faut. Ça nous amène à réfléchir parce qu'on se dit, est-ce que je traite mon corps de cette façon-là? Alors, Paul mentionne les abstentions que font les athlètes pour un prix terrestre. Et il veut nous montrer que nous sommes engagés, nous aussi, dans une course ou un combat, mais dans des dimensions spirituelles. Il veut que les chrétiens de Corinthe apprennent à assujettir leur corps par la discipline personnelle. Il dit, je traite durement mon corps. Pourquoi il disait ça à ces gens-là, à cette église-là? Parce qu'à Corinthe, les gens étaient entourés de vices de toutes sortes. Et on sait que quand on est entouré, que tout le monde le fait, ça a une influence sur nous, puis ça a un effet de nous amollir, puis de nous donner envie de faire pareil. Alors, ils vivaient, ces gens-là, dans une ville où c'était extrêmement, il y avait beaucoup de corruption, il y avait de l'idolâtrie, il y avait des gens qui allaient dans qu'on pourrait dire, des bordels, mais eux, ils croyaient qu'ils faisaient de l'adoration en allant là. Alors, quand tu as tout ça autour de toi, bien entendu, les gens, ça a une influence sur toi. Alors, c'est pour ça qu'il dit, fais comme si tu serais un athlète, bats-toi et cours pour aller vers la vie éternelle, mais il faudra que tu fasses des efforts. Ça implique des efforts. Quand il dit je traite durement mon corps, ou si la traduction traduirait la partie du verset, quand il dit je traite durement mon corps, il semble qu'on pourrait traduire par je fais de mon corps un esclave. S'il traduirait littéralement mot à mot, il y a des fois la traduction mot à mot, ça fait carré un peu dans une traduction, alors il trouve l'équivalent. Alors je traite durement mon corps, mais ce serait. Une traduction mot pour mot, ce serait « Je fais de mon corps un esclave. » Alors, ça veut dire que c'est la tête qui mène, c'est l'âme qui mène et c'est le corps qui obéit. Alors, le chrétien doit donc vaincre ses appétits et ses passions corporelles. Même si on est sauvé, on a encore des appétits et on a encore des passions corporelles. La fin du verset 27 mentionne que l'autodiscipline est une question primordiale. Paul, il ne va pas avec le dos de la cuillère en parlant de lui-même. « Je traite durement mon corps, je le tiens assujetti, de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même réprouvé. » Il ne va pas avec le dos de la cuillère, là. Il dit, si vous ne faites pas ça, il dit lui-même, de peur, c'est comme en voulant dire, si je ne le fais pas, j'ai peur d'être réprouvé. Pas dans le sens qu'il a peur de perdre son salut, mais dans le sens qu'il prend conscience que c'est important ce qu'il vient de dire aux autres, parce qu'à cause du fait qu'il est à Corinthe, mais nous, on vit dans une société qui ressemble beaucoup à celle de Corinthe autour de nous, là, au 21e siècle. Là. C'est plein de péchés autour de nous, tout est considéré maintenant comme normal. Alors, si on ne fait pas attention, nous aussi, on peut être entraînés. Bien entendu, Paul ici ne parle pas d'ascétisme. Ascétisme, c'est la pratique qui traite durement son corps, comme le faisaient les moines au Moyen Âge, comme Luther, par exemple. L'ascétisme, c'est le fait de traiter durement ton corps, mais pas le traiter, dans le fond, que c'est ton esprit qui contrôle ton corps, mais le traiter... Il se mettait des ceintures de braquettes, il mettait des roches dans le soulier pour marcher toute la journée. Alors ça, c'était pas une façon qui t'aidait à contrôler tes péchés, aucunement. Le catholicisme, durant tout le Moyen-Âge, et peut-être même encore aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que ça aide à contrôler ton appétit de péché. Ça a toujours été, ça existe encore. Alors l'ascétisme, c'est pas ça que Paul parle ici, là. Il parle d'une autodiscipline, d'un contrôle de soi. 1 Timothée, chapitre 4, versets 1 à 5. On en parlait tantôt, qu'à les temps de la fin. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns se détourneront de la foi, s'attachant à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs, dont la conscience sera cautérisée, défendant de se marier, commandant de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés, afin que les fidèles et ceux qui ont connu la vérité en usent avec action de grâce. Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien n'est à rejeter quand on en use avec action de grâce, parce que cela est sanctifié par la parole de Dieu et la prière. Colossiens chapitre 2, versets 20 à 23. Si donc vous êtes morts avec Christ quant aux rudiments du monde, pourquoi vous charge-t-on de ces préceptes comme si vous viviez encore au monde, en vous disant ne mange pas, ne goûte pas, ne touche pas, préceptes qui sont tous pernicieux par leurs abus, suivant les ordonnances et les doctrines des hommes, lesquels ont à la vérité quelque apparence de sagesse dans un culte volontaire et dans une certaine humilité et dans une austérité du corps qui n'a aucun égard à ce qui peut satisfaire la chair. Alors le Seigneur Jésus lui-même nous a rappelé que nous devons nous engager dans une lutte radicale avec nos péchés. Des fois, on lit des versets puis on se demande, il parle-tu littéralement ou il parle de quoi? Il parle certainement d'une manière radicale de lutter contre nos péchés. Dans Matthieu 5, versets 29 et 30, « Que si ton œil droit te fait tomber dans le péché, arrache-le et jette-le loin de toi, car il vaut mieux pour toi qu'un de tes membres périsse que si tout ton corps était jeté dans la géhenne. Et si ta main droite te fait tomber dans le péché, coupe-la et jette-la loin de toi, car il vaut mieux pour toi qu'un de tes membres périsse que si tout ton corps était jeté dans la géhenne. » Alors, il nous dit d'être très radical dans notre lutte au péché. Si on voit que quelque chose nous entraîne dans le péché, c'est à nous à prendre les moyens de se discipliner pour essayer d'éviter tout ce qui a un effet qui nous entraîne dans le péché. Alors, il est impératif de se souvenir que nous n'aurons de victoire que dans la mesure où nous recevons le vouloir et le faire, aussi dans la mesure de notre participation. On sait que par grâce, Dieu nous dit qu'il nous donne le vouloir et le faire, Mais aussi, ça l'implique que nous aussi, on a une lutte à faire, on a une participation à avoir. Voyez-vous, dans Philippiens, chapitre 2, versets 12 et 13, ça dit: Ainsi, mes bien-aimés, de même que vous avez toujours obéi, non seulement comme en ma présence, mais bien plutôt maintenant en mon absence, accomplissez votre salut avec crainte et tremblement. Hey, il ne va pas que le dos de la cuillère, c'est des mots forts. Crainte et tremblement. Travaillez à votre salut, ça veut dire que, oui, on est sauvé, mais ça ne veut pas dire qu'après qu'on est sauvé, on n'a rien à faire, on a juste à se laisser porter. Il faut agir. Alors, verset 13, ça se dit, car c'est Dieu qui opère avec efficace en vous le vouloir et le faire en vertu de son bon plaisir. Les deux ne sont pas contradictoires. Dieu va travailler en toi, va te donner le vouloir et le faire pour que tu vainques certains péchés, mais il veut aussi que toi, tu fasses des efforts de participation pour aller dans ce sens-là. La sixième perle, les directives du sixième commandement. Exode, chapitre 20, verset 13, qui est simple, mais qui en dit beaucoup plus long qu'à l'air en apparence. Tu ne tueras point. Toutes les grandes confessions de foi et les catéchismes chrétiens de toutes les époques ont enseigné que le décalogue ou les 10 commandements de Dieu constituaient un sommaire immuable de la loi morale de Dieu. Alors, celle-ci s'applique à absolument tous les hommes de toutes les époques. Alors, les commandements, ça s'applique à tous les hommes de toutes les époques. Mais ce n'est pas juste aux chrétiens, là. À tous les hommes de toutes les époques. Parmi ces 10 paroles écrites par le doigt même de Dieu sur des tablettes de pierre, se trouve cette parole-là, tu ne tueras point. La parole de Dieu nous enseigne que seul Dieu a le droit d'enlever la vie. Aucun homme n'a le droit d'enlever la vie d'un autre ou même d'enlever sa propre vie. Ça ici, c'est bien important parce que quand les grands théologiens analysent la loi ou le décalogue, ils prennent un commandement, ils veulent nous dire que le commandement, si tu regardes que ce que le commandement veut dire, il veut dire il y a des choses qui prescrit, puis il y a des choses qui défend. Et ça va beaucoup plus loin que juste que tu ne tueras point avec un fusil ou n'importe quelle autre façon. Alors, c'est ça qu'on va regarder un petit peu. Alors, la signification de chacun des commandements de Dieu a été détaillée dans ce qu'on appelle le grand catéchisme de Westminster. La confession de foi de Westminster, c'est la confession de foi des presbytériens. Et la confession de foi baptiste, c'est basé sur la confession de foi baptiste des presbytériens. M'accepter qu'on a changé quelque chose. Alors, notre confession de foi ressemble beaucoup à celle, sur beaucoup de points, à celle de la confession de foi de. Alors, eux, avec leur confession de foi, ils ont fait deux choses. Ils ont fait un grand catéchisme. Un grand catéchisme, il y a des questions et réponses comme on connaît, mais qui était fait pour les adultes. Puis, ils ont fait aussi ce qu'on appelle un petit catéchisme. En anglais, c'est shorter catechism. Alors, ça, c'était pour l'enseignement des enfants. Alors ici, on va donner une partie des réponses que donne le catéchisme et sous les deux aspects que c'est toutes ces confessions de foi-là ont pris chacun des commandements et ils ont expliqué qu'est-ce que le commandement prescrit, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il nous commande et aussi qu'est-ce que le commandement nous défend. Toujours les deux aspects. Alors on va parler ici des devoirs. Des devoirs envers le sixième commandement, tu ne tueras point. Alors, il dit, les études minutieuses et les efforts légitimes et nécessaires pour préserver notre propre vie et celle des autres, en maîtrisant nos passions, en faisant un usage sobre de la nourriture, des boissons, des médicaments, du sommeil, des loisirs et du travail. Et ça, c'est un ensemble de théologiens de tout premier ordre qui disent que, dans le fond, les devoirs, ça comprend toutes ces choses-là. Mais aussi les interdictions. Parce que chaque commandement, oui, prescrit, commande des choses, mais en même temps aussi nous donne des interdictions. Et les interdictions pour le sixième commandement, eux, ils disent, en négligeant ou en retirant les moyens légitimes et nécessaires à la préservation de notre vie ou celle des autres, en faisant un usage immodéré de la nourriture, des boissons, des médicaments, du sommeil, des loisirs et du travail. Autrement dit, si ça dit tu ne tueras point, ça va beaucoup plus loin que juste pas tuer ton prochain. Ça va au point de contrôler ton propre corps Parce que, dans le fond, des fois, on dit de quelqu'un, il est en train de se tuer à petit feu. Fait que c'est comme une forme de suicide par négligence. Ça, c'est très répandu dans le monde et aussi chez les chrétiens, malheureusement. Alors, vois-tu, les devoirs, ça va beaucoup plus loin que juste pas tirer ton prochain. Ça va qu'il faut que tu tiennes compte que le corps que Dieu t'a donné ne t'appartient pas, qu'il appartient au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit t'habite et que tu te dois de le traiter en conséquence. Mais on ne le fait pas tout le temps correctement. Alors, ce document-là a été rédigé par un groupe de 151 théologiens presbytériens et puritains. Et quand vous connaissez un petit peu l'histoire de ces puritains-là, t'as vraiment des... Quand on dit des tops, là, tu sais, des tops théologiens, là, prenez les noms de ces gens-là, regardez ce qu'ils ont écrit dans l'histoire, vous allez voir que c'est tous des gens extrêmement qualifiés, maîtrisaient l'hébreu, le grec. Mais pour arriver à prendre 151 théologiens et à les faire s'entendre pour résumer... La foi des chrétiens dans un document, je peux vous dire qu'ils ont travaillé fort. Alors, c'est une confession de foi d'un grand nombre d'églises presbytériennes et calvinistes à travers le monde, et la nôtre est presque calquée sur celle-là, avec l'exception de quelles, comme le baptême, on ne s'entend pas pour le baptême, et on ne s'entend pas sur le gouvernement de l'Église, comment ça doit se comporter. Alors, ça le dit, mais c'est pas ça qui est le but de notre affaire ce soir, c'est plutôt de regarder que les commandements vont plus loin que juste une première lecture, comme tu ne tueras point. Si tu prends ce que les Écritures disent, tu ne tueras point dans ses requêtes et dans ses interdictions, mais si tu prends tout l'enseignement que la Bible nous donne sur ce sujet-là, tu vas t'apercevoir que c'est beaucoup plus large que pas juste tirer ton prochain. Beaucoup plus large. Alors, qu'est-ce qu'un usage sobre ou modéré de toutes ces choses-là? Un usage modéré de la nourriture implique la nécessité d'une connaissance de base des principes d'une bonne nutrition et la mise en pratique de ceux-ci, l'apport raisonnable des calories nécessaires au bon fonctionnement du corps et pour le maintien d'un poids en santé. Ça a l'air beau comme ça, là, mais de le faire, c'est une autre affaire. Un usage modéré maintenant des boissons implique une consommation très contrôlée des boissons alcooliques, bière, vin, spiritueux, en se rappelant et en appliquant de façon constante les enseignements des Saintes Écritures sur ces sujets-là. Le même principe s'applique aussi dans l'usage des boissons gazeuses, thé, café, autres breuvages. Il y a des gens qui se rendent malades par ils deviennent accros du thé, du café, du coke. J'ai connu quelqu'un qui prenait son petit pack de 6 packs de coke à tous les jours, puis il n'était pas capable de s'en empêcher. Ça devient un accro. Alors, bien entendu, la même chose pourrait s'appliquer à tous les autres excitants qui provoquent des désordres dans le corps. Et bien sûr, on pourrait aussi ajouter l'usage du tabac, qui pourrait être inclus. Les études sur le tabac sont... Il y en a une multitude au gouvernement, quelqu'un qui va avoir l'information, il a réussi à écrire au gouvernement, ils vont en envoyer une tonne. C'est mauvais pour le corps et ça nous rend malades sur le long terme. Alors, quelque part, quand on dit « tu ne tueras point », fumer, à quelque part, c'est se tuer à petit feu sur du long terme, te rendre malade. Et il faut voir les liens, parce que si tu te rends malade, tu ne seras pas un bon serviteur de Dieu. Tu ne serviras pas aussi longtemps que tu devrais. Ah, il y a du péché là-dedans. Alors, quelque part, il ne faut pas penser qu'on a la force de se libérer par nous-mêmes de cela. Il faut demander au Saint-Esprit de nous libérer. Dieu est un Dieu de délivrance. Et quand on lui demande de nous délivrer, il nous délivre, ce qu'on ne fait pas tout le temps. Un usage modéré maintenant du sommeil, des loisirs et du travail exige aussi une connaissance sur nous-mêmes, c'est-à-dire combien d'heures de sommeil sont nécessaires à chacun d'entre nous individuellement. Faut que tu saches ton propre... Il y en a que 4 heures, 6 heures, 5 heures suffit. Il y en a d'autres, ça lui prend 10 heures. Bien, il faut que tu écoutes ta manière d'être, de toi, ce que tu es. Tu n'es pas pareil comme un autre. On ne peut pas dire 6 heures, c'est pour tout le monde, ou 8 heures, c'est pour tout le monde. C'est des règles qu'on a faites, mais à la fin de compte, il faut savoir comment, nous, on se doit d'appliquer ces choses-là dans nos vies. Donc, le sommeil, les loisirs et le travail. C'est drôle, pareil, je suis en train de lire un document qui a été écrit récemment pour les chrétiens sur le téléphone cellulaire. Apparemment que la quantité de personnes qui sont devenues accros au cellulaire, même chez les chrétiens. Alors, quand on parle d'usage immodéré, si tu passes plus de temps sur ton cellulaire à s'amuser avec, à regarder toutes sortes de choses, puis à aller sur Internet, que tu passes de temps dans ta prière et dans ta parole, tu es en train de faire de l'idolâtrie. Ton téléphone devient un idole pour toi. Alors, quand on regarde l'ensemble des devoirs qu'on a envers notre corps, c'est bien plus que ce que ça paraît à première vue. Alors, on se doit d'avoir un équilibre dans notre sommeil, dans nos loisirs. J'ai connu du monde qui était maniaque de l'informatique. J'ai connu une personne à Sherbrooke. Quand tu dis maniaque de l'informatique, là, il en mangeait jour et nuit. Il est mort jeune. Je ne sais pas si c'est un jugement, je ne peux pas me prononcer là-dessus. Mais il est mort très jeune. Alors, il faut faire attention dans la modération, dans tout ce qu'on est, dans tout ce qu'on fait, que ce soit le sommeil, les loisirs ou le travail. Il y en a d'autres que ça peut être le travail devient un idole aussi. Même le travail peut devenir un idole. Alors, il faut savoir demander au Seigneur de nous montrer qu'est-ce que c'est l'équilibre dans tout cela. Alors, il y a une multitude d'études médicales qui ont démontré, hors de tout doute, la nécessité de l'exercice physique dans nos vies pour maintenir un poids stable et acceptable, pour maintenir une bonne santé cardiovasculaire et pour maintenir notre bien-être physique en général. Si on regarde dans le monde chrétien et dans le monde païen, ce n'est pas une règle qui est très suivie en général. Hein? Même, faut se regarder. On ne peut pas changer si on ne reconnaît pas les problèmes qu'on a dans notre vie et qu'on ne demande pas à Dieu de nous délivrer de ces choses-là par lui-même, par sa force, par le Saint-Esprit. Sinon, on n'y arrivera pas. On va toujours maintenir les années, on va maintenir nos vieilles habitudes, puis à fin de compte, il n'y a rien qui change. Pourtant, ce que Dieu nous dit dans les Écritures, dans les versets qu'on regarde, c'est pas des « ça te tente-tu de faire ça » ou « ça te tente pas ». Il nous commande de le faire. Alors, quand Dieu commande et qu'on n'obéit pas, on est dans des péchés graves, là, très graves. Alors, tous ces facteurs-là combinés peuvent allonger ou raccourcir ou contribuer à favoriser ou à éviter des maladies, que ce soit la nourriture, notre rapport avec la nourriture, notre rapport avec les boissons, notre rapport avec le travail, le sommeil, les loisirs et le travail. À quelque part, il faut réfléchir. Septième perle, c'est les implications incontournables de ce qu'on pourrait appeler la règle d'or de la Bible. Dans Matthieu 7, au verset 12, ça dit « Toutes les choses donc que vous voulez que les hommes vous fassent, faites-les-leur aussi de même, car c'est là la loi et les prophètes. » Alors, on pourrait trouver une application à ce commandement du Seigneur dans nos relations, par exemple, matrimoniales. Notre apparence physique, notre efficacité fonctionnelle et notre longévité de vie. Alors, notre apparence physique et son rôle dans les relations matrimoniales. La Bible nous enseigne que le meilleur antidote à l'impureté sexuelle est d'être en amour de façon active, joyeuse et visuelle avec son conjoint. Ce qui arrive avec les années, c'est que, je ne sais pas si vous vous souvenez de la chanson « Elle se laisse aller, elle se laisse aller ». Bon, bien, avec le temps, nous aussi on fait la même chose. Alors on devient, plus on se laisse aller, et à quelque part, tout ça, ça a des répercussions sur la qualité de notre vie sexuelle puis de notre vie matrimoniale en général. J'ai dit Ézéchiel, mais ce n'est pas Ézéchiel, je pense que c'est un Corinthien. Il dit « Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chacun ait son mari, que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari. » La femme n'est point maîtresse de son propre corps, mais c'est le mari. De même aussi, le mari n'est point maître de son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un consentement mutuel pour un temps, afin de vaquer au jeûne et à la prière, et ensuite retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Alors, la chose à faire ici, c'est le lien, c'est que quand on se laisse aller, ça a une répercussion sur l'attirance qu'on a les uns envers les autres, et l'un envers le conjoint envers la conjointe, et inversement. Et ça fait que ça peut gâter ta vie, amener du péché dans ta vie. Proverbe 5, verset 18 à 20, ça dit que ta source soit bénie. Fais ta joie de la femme de ta jeunesse, biche des amours et chevrette pleine de grâce. Que ses attraits t'enivrent en tout temps. Sois constamment entraîné par son amour. Et pourquoi, mon fils, serais-tu entraîné par la femme d'autrui? Pourquoi embrasserais-tu le sein d'une étrangère? Que ses attraits t'enivrent en tout temps, soit constamment entraîné par son amour. Pour que ses attraits t'enivrent en tout temps, on a la responsabilité que les attraits soient encore là. Voyez-vous? Le Cantique des Cantiques, par exemple, nous parle beaucoup du rôle de l'attraction physique mutuelle pour célébrer un aspect légitime et désirable de l'érotisme marital. Le mari et la femme sont des devoirs pour maintenir l'apparence de leur corps. La négligence de cet aspect de nos vies peut contribuer à éloigner des conjoints l'un de l'autre. Alors, en négligeant leur santé physique, les conjoints peuvent détériorer plusieurs aspects de leur vie. Une personne obèse sera portée à la paresse et à la négligence de ses devoirs dans le travail, dans le ménage, dans la cuisine, dans l'éducation des enfants, etc. Il ne faut pas penser que ça n'a aucune influence sur toutes sortes de choses, de devoirs que Dieu te commande. Vu que ça a une influence, puis si on ne fait pas attention, bien quelque part, c'est des commandements que Dieu nous donne sur d'autres affaires qui font en sorte qu'on n'obéit pas. Ça a une influence aussi sur notre longévité. Autrement dit, si tu ne fais pas attention à tout ce qu'on a mentionné tantôt, mais ta vie peut raccourcir ou se détériorer en termes de qualité. Alors, une mauvaise santé peut réduire la longueur de notre vie et par le fait même influer sur la qualité de vie de nos proches. Donc, juste encore trois versets et on va terminer là-dessus. Dans Proverbe, au chapitre 17, le verset 6, alors, c'est un verset qui nous donne notre devoir de vivre le plus longtemps possible. Les enfants des enfants sont la couronne des vieillards et les pères sont la gloire de leurs enfants. Deutéronome chapitre 4, verset 9, notre devoir d'éduquer nos proches. Et quelle est la grande nation qui a des statuts et des ordonnances justes comme cette loi que je mets aujourd'hui devant vous? Seulement, prends garde à toi et garde bien ton âme de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et de peur qu'elle ne s'éloigne de ton cœur aucun des jours de ta vie. Et fais-les connaître à tes fils et aux fils de tes fils. Non seulement on a le devoir de mettre ces choses-là qu'on vient de voir en application nous-mêmes, mais on a le devoir d'instruire ceux que Dieu a placés sous notre responsabilité pour la même chose. Psaume 128, versets 3 à 6. Alors, bien entendu, si on obéit et qu'on a la crainte de Dieu, ça va amener des bénédictions dans nos vies. Psaume 128, verset 3 à 6. À toi le bonheur et la prospérité. Ta femme sera comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils comme des plants d'olivier entourant ta table. Voilà, c'est ainsi que sera béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion et tu verras la prospérité de Jérusalem tous les jours de ta vie. Et tu verras les fils de tes fils. Paix à Israël. Alors, on va arrêter là pour aujourd'hui.